Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock and Page, Marie-Pierre Soriano au Commonde de votre magazine littéraire et musical. Moi je lis et avec vous, chaque semaine, je partage. Pour y arriver en grand, je chronique les ouvrages, j'interviewe les auteurs quand c'est possible et puis, et tout est là, je vous propose une playlist par ouvrage, histoire de vous restituer en toute subjectivité assumée les émotions de lecture par d'autres émotions. Quel titre pour vous dire le rythme d'un récit, quel autre titre pour vous dire une écriture et sa texture, bref, je vous fais pas un dessin, vous m'aurez comprise. Histoire aussi, et quand même, de sortir des entre-soi stériles, ce qui ne nous apporte absolument rien, et qui consisterait à nous faire croire que pour lire, il faut être un spécialiste, pour écouter de la musique idem, et pour celles et ceux qui naviguent à vue entre les deux points de salut. Au sommaire de ce numéro, un roman comme une claque, une vraie, la découverte d'une plume aussi, et j'adore ça, découvrir un auteur, mais tellement. Violaine Huismont signe son premier roman, son titre c'est Fugitive parce que reine, et c'est paru en ce début d'année 2018 chez Gallimard. Et comme, encore une fois, j'ai beaucoup de chance. D'ici une poignée de minutes, Violaine Huismont répondra pour vous et moi à toutes mes questions. Mais avant toute chose, laissez-moi vous donner à écouter comment je me sentais quand j'ai refermé ce roman magistral. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. But my mind holds a key. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds the key. I'm standing on the stage of fear and self-doubt. It's a hollow play, but the clap anyway. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds the key. You're standing next to me. My mind holds the key. I'm living in an age that calls darkness light, though Fire avec My Body is a Cage pour vous dire l'ampleur, l'amplitude, la force de ce roman et son propos tout à la fois. Ce roman aujourd'hui à l'honneur dans Rock and Page qui s'intitule Fugitive parce que reine et qui est signé par Violaine Huismont dont c'est le premier roman, le tout paru chez Gallimard. Rien que ça, pour un premier roman, ça se pose là et c'est pas un hasard. L'auteur que nous recevrons d'ailleurs d'ici une poignée de minutes nous met face à Catherine Kremitz, sa mère, et en trois parties, elle va éclairer cette figure géante de sa vie d'enfant puis d'adulte, si puissamment que je crois que cette Catherine, cette femme brisée, funambule, excessive, monstrueuse et magnifique, restera tatouée dans ma rétine de lectrice pour toujours. La première partie repose sur le ressenti de l'enfant, Violaine enfant, petite, cette Violaine non autonome en quelque sorte, qui ne comprend pas les tenants et aboutissants de la chute du mur de Berlin, ça c'est l'entrée, l'inquiétude vraiment du roman, de la même façon qu'elle ne comprend pas celle de sa mère, la chute de sa mère, sa disparition. Qui, à ce moment-là, vit un séjour en hôpital psychiatrique. Mais sans comprendre les tenants et les aboutissants de ce que lui livrent alors, sans explication, les adultes, cette phrase-là qu'elle va entendre et qu'elle entend d'ailleurs comme un seul mot, « ta mère est maniaco-dépressive », Violaine Huysmans nous permet d'approcher de très près tout ce qui était alors de l'ordre du ressenti, de l'intuitif autour de l'internement et de la personnalité borderline de sa mère, et elle nous le fait entendre comme un écho qui proviendrait de loin, au détail près, que tout serait si présent, si frais, si prégnant. La seconde partie serait comme une litanie, scandée, crue, violente, mais jamais gratuitement, et ferait une sorte de catalogue, même si c'est pas le terme approprié, plus distancié sur la vie du personnage central. Il s'agirait d'une lumière frontale apposée avec une pudeur insensée, une lumière crue sur le visage et la vie de Catherine. Huysmans nous met alors face aux faits, à l'histoire de sa mère, presque en déroulant le temps chronologique de sa vie. Et la troisième et dernière partie est la voix de l'enfant devenu adulte, presque apaisé, qui relatant la vie de sa mère et la fin de vie de sa mère, qui relate. Et là, je m'arrête pour ne rien déflorer de cette fin qui est une sorte de catharsis magnifique. Le tour de force incontestable de ce roman autobiographique, c'est qu'à aucun moment, ni en creux, ni en plein, entre aucune ligne n'apparaît autre chose que le portrait adulé de cette mère hors norme, de cette famille qui n'entre dans aucune case, avec ce père riche, incapable de manger à table, refusant toute propriété terrienne, cet homme qui brûle la vie par les deux bouts, mais qui restera peut-être d'une certaine manière l'homme de la vie, en tout cas l'homme de la vie de la famille, cet enfant qui, à tous les âges de la vie, aux côtés de sa sœur de 2 ans, son aînée, va voir sa mère tour à tour et sans transition, hystérique, drôle, terrorisante, malade, blessée, sexuelle, droguée, par les médicaments, capable de faire le clown, danseuse à tous les âges de sa vie, autant que de ne plus vouloir voir ses enfants du tout, cette femme belle à en crever, la cigarette au coin des lèvres, qui roule sur les trottoirs avec sa Jaguar, danse à s'en rompre tous les os, affole les hommes, les femmes, qui demande à ses filles de devenir les garantes, les poutres maîtresses de sa propre survie. Époustouflant. De part en part, il n'y a rien à dire, c'est époustouflant. L'écriture y est déployée sans artifice, dans une langue belle comme l'est la mer, c'est sourd, c'est profond, ça remonte du ventre, la matrice. Une boucle, son roman, qui part du ventre et revient au ventre quand il faut nommer. Violaine Huysmans ne recule pas, elle nomme, mais comment parvient-on à refermer le roman sans en somme avoir entrevu la moindre trace de traumatisme, de séquelles que pourraient porter les enfants de Catherine? Ça, c'est la magie de l'écriture de Huysmans. Ça, c'est savoir transformer la matière brute pour la magnifier, la transformer et la porter autour du cou comme un bijou splendide et rare. Et moi, cette magie qui se rapproche de la force de la mère de Violaine Huysmans, quand elle fait de la vie un manège pour ses filles et pour elle-même, pour les hommes, pour les femmes qu'elle aime, je vous la dirait bien comme ça.
Let it happen.
c'était Tame Impala avec Let It Happen et tout ce que ce titre comporte d'excessif, d'épique, d'infini en somme, une sorte de fuite effrénée et qui est fort et grand comme l'amour offert par Violaine Huysmans dans son roman, son premier, son roman autobiographique Reine parce que fugitive, véritable cri d'amour porté à sa mère Catherine Kremitz, mère dépressive et excessive, monstre hors norme, humaine, fragile et magnifique. Mais arrêtons tout et recevons comme il se doit Violaine Huysmans qui nous fait l'immense honneur de nous téléphoner depuis New York où elle vit. Violaine Huysmans, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation dans Rock and Page. Merci avant toute chose pour ce roman absolument splendide que vous venez de nous offrir. Alors Fugitive parce que Reine est un roman autobiographique, il est aussi votre tout premier roman. Est-ce que vous sauriez dire comment il est né et est-ce que s'autoriser à l'écrire a été une affaire compliquée pour vous ?
Oui, mais déjà merci à vous de cette invitation et de vos paroles sur mon livre, ça me touche énormément. Et pour tout vous dire, en fait, l'écriture de ce livre pour moi a commencé il y a très longtemps. Probablement elle a commencé même dans l'enfance, enfin à un moment que je ne peux pas identifier. Mais pour de vrai, elle a commencé il y a 10 ans, où j'avais écrit une version de ce texte qui n'a rien à voir avec la version que vous avez lue, qui était sous forme de monologue. Et c'était juste un monologue de Catherine, du personnage principal du roman, qui était déjà à l'hôpital à ce moment-là. Donc c'était un peu le moment qui commence le livre aujourd'hui, le roman que j'ai écrit, Fugitive par Kutskeren. J'avais commencé par écrire ce texte sous forme, c'était un peu une forme théâtrale en fait, comme un monologue. Et donc j'ai écrit ce livre il y a 10 ans, à l'époque ma mère vivait encore, et ensuite je l'ai repris, donc il y a un peu plus d'un an. Donc après les choses se sont enchaînées très vite. Au moment où j'ai commencé à écrire la version que vous avez lue, c'était une fois que j'avais trouvé la structure, en fait. Et une fois que j'ai trouvé la structure du livre, je l'ai écrit presque comme de l'écriture automatique. C'était assez étonnant. C'est parti tout seul.
Alors, votre mère est un personnage, mais faire de votre mère un personnage est un tour de force incroyable quand c'est à ce stade réussi. De quoi aviez-vous le plus peur et qu'est-ce qu'il ne fallait pas caricaturer trop et de quoi fallait-il se méfier pour le réussir comme vous le souhaitiez, ce portrait?
Pour moi, ce portrait avait besoin de beaucoup de recul, de beaucoup de distance et d'une dissociation totale en fait avec l'expérience vécue. C'est-à-dire que c'est à la fois ce livre et à la fois pour moi une expérience d'identification avec le personnage de ma mère et en même temps d'immense distance. Et je crois que c'est cette distance-là qui était difficile à trouver. Pour vraiment être totalement magnanime, en fait, c'est-à-dire de jamais la juger, de jamais lui en vouloir, de jamais évoquer ni les aspects autobiographiques de mon enfance, ni les aspects biographiques de sa vie, d'une façon qui puisse montrer quelques remords ou quelques rancœurs possibles.
C'est subjugant en fait. Vous nous faites entrer dans la narration par un incipit qui est incroyable, hein. Je ne suis pas la seule à le dire, et qui fait presque 30 lignes, qui est une sorte de métaphore construite autour de la chute du mur de Berlin. Vous aviez 10 ans alors, vous ne comprenez pas, vous voyez, vous ressentez pourtant, mais comme ce qu'il arrive à votre mère, vous ne comprenez pas, en l'occurrence là son absence, et tout est là, se construire sans comprendre, autour et contre, et avec une mère qui ne cesse de fuir en fait. C'est aussi un enfin, en tout cas, dans la musique que moi j'ai entendue, c'est comment on se construit autour de cette fuite, en fait, sans pour autant juger. Est-ce que vous partagez cette lecture ?
Oui, tout à fait. Enfin, pour moi, c'était presque un peu comme une fugue musicale aussi. Il y avait quelque chose comme ça. Et dans la variation qui reprend le même thème, et donc comment on se construit aussi dans cette variation. Mais la métaphore qui ouvre le livre, c'était aussi pour moi, ça faisait partie de cette structure qui a permis l'écriture du livre. En fait, c'est à partir du moment où je savais comment le livre commençait qu'il a pu s'écrire. Et pour moi, il commençait comme ça parce que c'était une façon aussi de l'inscrire dans un moment historique, dans le temps, mais dans un temps collectif. Donc c'était pour moi, enfin, je revendique totalement l'autobiographie, l'aspect autobiographique du livre, mais pour moi, en même temps, il fallait que ce soit vraiment un exercice littéraire, sinon ça n'avait pas d'intérêt. Mmh. Et, Et c'est pour ça que j'avais besoin en fait de l'ancrer dans quelque chose qui soit de l'ordre du collectif et pas juste du personnel.
Alors vous l'avez évoqué un petit peu avant, la structure, la construction de votre roman est capitale. En l'occurrence, elle repose sur trois parties. Alors j'ai tout à fait subjectivement, ça c'est mon boulot de lectrice en fait, reconnu ou en tout cas associé la première partie à votre voix comme enfant, et dans la dernière, la même voix, la même personne, mais devenue adulte. Mais alors, pour ce qui est de la seconde partie, celle qui est entre les deux, en fait, et qui pour moi repose sur une litanie avec une sorte de langue qui serait très scandée, j'ai repéré que le processus de l'accumulation était très présent. Cette seconde partie, vous en parleriez comment, vous ?
Pour moi, c'est vraiment une narration omnisciente, en fait. Donc, c'est presque un style... C'est pas un style neutre, parce qu'il y a un style clairement affirmé, et la répétition aussi, je pense que c'est... Je suis pas sûre que ce soit... Bref. Je suis pas sûre que ce soit vraiment très... que la répétition soit ce qui est le plus fort dans mon style. Je pense qu'au contraire, c'est peut-être une erreur de style. Mais bref, passons. Le fait est que cette deuxième partie, pour moi, c'est vraiment une narration omnisciente. C'est une narration externe dans laquelle j'endosse le rôle de l'écrivain, en fait. Mmh. Donc j'écris la vie de cette femme d'une façon totalement extérieure à la narration, et qui a de l'intérêt aussi dans le sens où, évidemment, on sait aussi qui écrit ce livre, parce qu'on a déjà lu la première partie.
Tout à fait.
Donc on ne peut pas prétendre de rentrer complètement dans un roman. On sait évidemment où se place le narrateur.
Mmh. Oui, c'est ça. Tout au long du roman, la présence de l'écrit et de la littérature jalonne le texte, pas parce que votre mère aurait été une grande lectrice, mais on trouve des références, et puis il y a ce texte qu'elle a écrit aussi et publié à compte d'auteur, et puis ce poème qu'enfant vous lui avez écrit pendant son internement. Et à page 99, presque au centre du roman, il y a cette phrase: la vérité d'une vie n'est jamais que la fiction au gré de laquelle on l'a construit, en fait. Elle est importante quant à votre projet initial ?
Oui, tout à fait, oui, mais vous avez totalement raison de relever cette phrase. Pour moi, c'est au centre, c'est absolument le cœur du projet. Et c'est là où, en fait, l'autobiographie, enfin, les aspects autobiographiques du texte et les références à la littérature se mêlent complètement et deviennent un projet unique. C'est-à-dire que, fondamentalement, ce qu'il y a d'autobiographique dans le texte, pour moi, n'a pas grand intérêt. Mmh. Ce qui a de l'intérêt, c'est comment on le lit, comment ça s'écrit, comment on le comprend. Et c'est pour ça que les changements de narration étaient importants pour moi aussi, dans la mesure où ce qu'on pouvait comprendre d'autobiographique pouvait prendre la voix d'une première personne ou d'une troisième personne. Et que cette différence entre l'autofiction, l'autobiographie et la fiction soit complètement mêlée.
Mmh. C'est réussi.
Et ce qui pour moi après est aussi participe aussi de la référence au projet proustien, qui est évidemment un projet écrit à la première personne et dans lequel l'entreprise autobiographique est aussi importante que l'entreprise fictionnelle.
Mmh, tout à fait.
C'est une façon de se révéler au monde et de comprendre le monde qui se passe à travers l'écriture, à travers la littérature, et qui n'a d'autre but que de se révéler de cette façon-là, en fait.
Mmh. C'est un grand travail d'orfèvre de la lumière, en fait. Effectivement, c'est trois parties qui éclairent un même sujet différemment, et on obtient quelque chose qui est de l'ordre de la fiction avec une matière brute que vous avez su transformer admirablement. Quand on écrit ça en premier roman, alors je me permets le ça parce que c'est une grande entrée quand même pour moi dans la littérature, j'imagine que ça secoue quand même humainement, parce que le propos est loin d'être neutre, je pense pas qu'il le soit jamais, mais là, c'est quand même particulier. Qu'est-ce qu'on peut écrire après ? Quels seraient vos projets désormais ?
Pour moi, ce premier roman est effectivement un premier roman, parce que c'est la première chose que je publie, mais c'est pas nécessairement la première chose que j'écris. Pour moi, ce sujet, c'est le sujet. Donc c'est comme, sans vouloir faire de comparaison grandiloquente, Duras a, j'ai l'impression, plus ou moins écrit le même livre tout à travers sa vie et son œuvre. Et pour autant, c'était chaque fois des livres différents. Voilà. Je pense que le sujet est posé et après, ce qu'on peut écrire d'autre, je ne sais pas, c'est encore une fois d'autres versions d'une réalité qui est la réalité vécue. Pour moi, en tout cas, je pense pas que la fiction pure en tant que telle soit vraiment de mon ressort, soit vraiment quelque chose qui m'intéresse. Je pense que c'est l'expérience vécue et la façon dont on la transforme à travers la littérature et la fiction qui me parle et qui me semble un sujet que j'ai envie de continuer à travailler.
Merci, merci infiniment pour cette interview. Vraiment, merci avant toute chose pour votre roman. Vous ne coupez pas à la question Rock'n'Page. Quel titre de musique avez-vous choisi pour évoquer votre roman sans en parler ?
La valse brillante de Chopin. Surtout dans l'interprétation d'Alfred Cortot, que ma mère affectionnait tout particulièrement. Et ce qui était assez drôle, parce qu'en même temps, elle aimait l'écouter et elle aimait dire aussi que c'était un antisémite dégueulasse, que c'était un grand salaud. Et pourtant, c'était quand même cet enregistrement qu'elle aimait écouter, qui participait aussi de sa contradiction permanente, ce que je trouvais très beau aussi. Et puis cet enregistrement avait aussi une qualité de quelque chose d'ancien, donc on entendait un peu le grésillement un grésillement comme ça qui faisait palpiter la musique, qui était très beau.
Merci, merci beaucoup. C'était la grande valse brillante de Chopin, interprétée par Alfred Cortot, choisie aujourd'hui par Violaine Huissement dans Rock'n'Page, titre qu'elle a choisi pour évoquer son magistral premier roman, Fugitive parce que reine, cet hommage incroyable à sa mère, cette mère fragile, monstrueuse, magnifique, cette mère qui ne lui a inspiré qu'un amour sans faille, même tétanisée enfant, même écrasée par son absence quand elle est internée, par exemple, même témoin de ses frasques sexuelles, de ses addictions diverses, de ses excès et de ses histoires d'amour abracadabrandre. Fugitive parce que reine est un subjugant. Roman sur nos parts d'ombre, sur le fait que nos existences ne sont pas binaires ni même manichéennes, même si cela arrangerait les puissants que nous en soyons convaincus. Fugitive parce que reine est un roman d'amour, quand l'amour relie un enfant à sa mère et la mère à l'enfant. Vraiment, mais vraiment, procurez-vous ce roman et passez-vous-le. À l'heure où chacun verse dans la psychologie de comptoir avec pour obsession la culpabilité, mais de qui et pour quel résultat, trouver des coupables ne résout pas toujours tout. Et que se passe-t-il après l'immédiateté. Bref, cette émission touche à sa fin. Merci à Bruno à la réalisation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même place, pour partager un nouveau titre, de nouveaux ouvrages, de nouveaux titres de musique pour découvrir et s'enrichir encore et encore. Vous pouvez retrouver tous les numéros de Rock and Page sur le blog de l'émission. Vous n'avez qu'à taper Rock and Page dans un moteur de recherche. Je vous laisse en compagnie de ce Black Star fabuleux laissé par le grand Bowie et qui, pour moi, illustre en grand le départ de ce personnage magnifique, ce personnage déposé par Violaine Huysmans dans son premier roman « Fugitive parce que reine », cet hommage à sa mère.
The center of it all. You are.